fantasme régnait au sein des citadins et on a vu des mères pleurant en sanglots. À Asmara, il y a de quoi. Quand on songe à l'endoctrinement de leurs enfants par plaque tournante sur la Kiliv pour un combat éventuel contre les Tupis dans leur zone frontalière tampon, la contrée de Badimé, jusque-là, No Man's Land. Cette visite a été donc un soulagement pour une population dont elle aspirait avant tout des deux côtés la paix durable et la stabilité.
Soulagement des populations. Mais y a-t-il des voix discordantes qui se font entendre tant en Éthiopie qu'en Érythrée?
Ici à Addis Abeba, dans sa majorité, la population, considérant que c'était une séparation forcée au départ avec les Érythréens, estime que c'était sans aucune raison fondamentale, émanant des aspirations politiques personnelles des cliques au pouvoir. C'est la reprise des relations diplomatiques, le vol aérien reliant les deux pays, les lignes téléphoniques reprenant déjà leurs fonctions, signe de cordialité entre les deux peuples. Il ne reste pas moins que ceux qui avaient participé au combat il y a 20 ans et qui se sont soldés par une dizaine de milliers de morts des deux côtés se demandent pourquoi lors de ce sacrifice doublé des mécontents profiteurs du régime précédent, caractérisé surtout par la corruption sans borne. La diplomatie de réponse exige, on s'attend dans les jours qui viennent, la visite du président Isaias Afwerki en Éthiopie.
Getachew Tedla, vous êtes le correspondant de VOA Afrique dans la capitale éthiopienne. Je vous remercie. Tsige Chiferor, je me tourne maintenant vers vous. Cette normalisation des relations avec votre voisin érythréen était inconcevable il y a encore quelques mois. Comment expliquez-vous ce retournement de situation?
Mon interprétation personnelle, c'est tout simplement le fait que en choisissant un nouveau premier ministre qui est issu d'un groupe ethnique qui n'a absolument rien à voir avec les Tigréens du Nord et a bénéficié l'Éthiopie. Il est arrivé, vous l'avez mentionné un peu plus tôt dans votre reportage, c'est un homme qui est beaucoup plus jeune, oui. C'est un homme qui comprend le contexte politique et qui comprend aussi que ce n'est pas dans l'intérêt de son pays, l'Éthiopie, de rester enclavé, de rester isolé de son voisin du Nord et que le bon sens, en fait, l'a emporté.
Alors en fait, depuis son arrivée à la tête du pays en avril dernier, le Premier ministre Abiy Ahmed n'arrête pas d'annoncer des changements en profondeur. Il a levé l'état d'urgence, libéré des milliers de prisonniers politiques, appelé à l'ouverture de l'économie aux fonds privés et bien évidemment signé la paix avec l'Érythrée. Ibrahima Kan, est-il en train de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué?
Je l'espère bien parce que aujourd'hui, il personnalise un vœu de tous les Éthiopiens de changer de direction la manière dont le pays fonctionne. Et je trouve que les actes qu'il a déjà posés vont dans la bonne direction. Parce que quand on veut changer de direction à l'interne, on doit tout faire pour avoir de bonnes relations avec ses voisins. L'Éthiopie est dans un contexte géopolitique très difficile. Vous avez comme voisin la Somalie, vous avez comme voisin le Sud-Soudan, vous avez comme voisin le Soudan, et vous avez aussi comme voisin Djibouti qui est en conflit avec l'Érythrée. Donc si vous voulez vraiment mettre en œuvre votre politique interne, vous devez créer une situation de dégel avec vos voisins. Et je pense que c'est ce qui explique l'acte en direction de l'Érythrée, qui a bien sûr une composante économique que votre correspondant a expliqué. Et je trouve que l'axe qu'il a pris, surtout d'abord libérer les prisonniers, s'attaquer au problème des droits de l'homme, c'est un moyen aussi de susciter à l'intérieur du pays un sentiment de libération, un sentiment de liberté. Et qui sait que quand il y a la liberté, quand les gens s'expriment, quand les gens disent ce qu'ils veulent, les politiques peuvent mettre en place des systèmes et peuvent écouter les gens. Un seul exemple pour vous montrer à quel point sa démarche est utile.
Oui.
Depuis qu'il est devenu Premier ministre, le Parlement a retrouvé sa vocation. C'est le lieu où le Premier ministre vient discuter avec la totalité des députés et les députés poser des questions qu'ils n'auraient pas pu poser il y a 5 ou 6 ans. Ça montre que si on crée un espace de liberté, un espace de démocratie, on peut jeter les bases d'un nouveau départ dans un pays comme l'Éthiopie qui en a tant besoin. Mmh.
Samuel Guébrou, nous voyons que grâce à cet accord paraphé en début de semaine, des familles se parlent enfin après 20 ans de séparation. Mais y a-t-il encore des obstacles à lever pour oublier les tensions passées ?
Oui, en fait, comme Monsieur Getachew Ouattara l'a dit, c'était une séparation forcée, une séparation de deux familles, de deux membres de la famille qui sont séparés. Et la plupart des fois, on trouve toujours cette ségrégation qui est toujours présente de la part des Érythréens vis-à-vis des Éthiopiens. Et encore plus pire, s'il y a des métis, parents, père éthiopien ou mère érythréenne, à la fin, ces gens-là sont acceptés nulle part. Ils sont dans le contexte éthiopien, ils se sont encore toujours dit t'es pas 100% éthiopien. Et du point où, de temps en temps, on peut voir que même si cette amitié longtemps est en clandestine, parce que cette amitié entre Éthiopiens et Érythréens, même au dehors du pays, est toujours été vue clandestine. Grâce à ça, ça change, ça devient de plus en plus ouvert, mais ceci seulement pour la génération qui a vu le changement. Pas la génération qui a perdu la famille dans la guerre, des générations qui ont dû quitter leur pays. Pour eux, je crois que c'est un peu difficile de passer ce temps.
Alors, le chef du gouvernement éthiopien est également confronté au mécontentement de certains Éthiopiens, en particulier au sein de la minorité tigréenne vivant près de la frontière, minorité qui est opposée à la rétrocession de territoire à l'Érythrée. Roland Marshall, la participation des Tigréens sera-t-elle vitale pour mettre en œuvre la paix ?
Elle sera vitale, mais je crois qu'il est important de se rappeler aussi que le conflit entre Érythrée et Éthiopie était un conflit avec des causes complexes. C'est pas simplement un problème de frontières.
Oui.
C'est un problème. C'était également une question de politiques économiques qui étaient divergentes, notamment après la création d'une devise érythréenne, le NACFA. C'était également une différence très forte sur la vision régionale et l'importance que chacun des deux pays devait avoir dans la région. C'était aussi le statut des communautés érythréennes qui vivaient en Éthiopie. Donc, plus évidemment, les relations que dans la guerre jusqu'en 1991, les nationalistes érythréens avaient eu avec d'autres composantes des mouvements armés éthiopiens. Donc, si vous voulez, je comprends et je partage l'enthousiasme actuel. Je crois que la stratégie du Premier ministre, c'est effectivement de susciter chaque jour de nouvelles réformes et d'une certaine façon d'empêcher une opposition de se coaliser sur quelque chose de précis, puisque la carte politique est en train de changer pratiquement jour après jour. D'un autre côté, il faut se souvenir que c'est pas simplement un voyage, c'est pas simplement la reprise éventuellement d'échanges économiques dont on va voir comment ils vont être organisés. Ethiopian Airlines doit atterrir à Asmara. Quelles vont être les taxes? Y aura-t-il des visas pour les voyageurs? Ce sont des questions aussi basiques que ça qui doivent être réglées. Et puis derrière ça, il y a tous les problèmes politiques que j'ai mentionnés. Je crois aussi, je le dis très vite, que d'un point de vue interne, il faut quand même se souvenir que le régime éthiopien, dans sa phase développementaliste, a créé de fait ou a suscité un certain nombre, volontairement ou non, un certain nombre de conflits locaux sur les problèmes de la terre, sur les questions d'organisation administrative. Ces problèmes-là ne sont pas réglés par les droits de l'homme et par l'ouverture du champ politique.
Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui disent que l'absence notable des dirigeants tigréens lors des pourparlers à Asmara est une indication que la tâche ne sera pas facile pour Abiy Ahmed. Tsige Chifero, comment faut-il interpréter l'attaque à la grenade lors d'un meeting d'Abiy Ahmed le 23 juin dernier à Addis Abeba? Peut-on dire que c'était une réaction au train de réforme du Premier ministre? Beaucoup disent qu'il va trop vite, que c'est un homme pressé.
Difficile de dire si c'est un homme pressé, s'il va trop vite. En tout cas, une chose est claire, ces réformes dérangent. Et cette grenade, pour ma part, ne m'a pas totalement étonnée, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que certains réagiraient assez violemment à ce type de mesures qui sont, comment dire, inédites dans un contexte éthiopien. On n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui est choisi au pouvoir, issu d'un groupe ethnique différent du TPLF, qui au bout du compte est le groupe de la coalition qui contrôle le pouvoir, et qui en plus se retrouve être un Oromo, et qui en plus a, comment dire, un impact assez fort dans sa région, et qui tout à coup vient au pouvoir donc, et décide de mener une série de réformes qui surprend tout le monde et qui, menace d'une certaine façon aussi les privilèges que certains membres du TPLF avaient avant son arrivée. Mmh.
Alors restez avec nous, que représente ce rapprochement pour les deux pays mais aussi pour la région? Ce sera l'une des questions que nous allons aborder dans quelques petits instants, sans oublier les commentaires Facebook et une question d'une de nos stations partenaires en Afrique. Washington Forum revient après cette courte pause. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont mis d'accord pour renouer leurs relations diplomatiques et ouvrir leurs frontières après des décennies d'hostilité. Et maintenant, quelques points de vue sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore de N'Djamena, Tchad, cet accord de paix entre ces deux États frères devenus rivaux est un signe de stabilité transfrontalière qu'attendent les deux peuples, toujours unis par l'histoire. Que la suite soit une concrétisation par le respect de l'accord. Hassan Omar Boulale Gash, Djibouti, l'Éthiopie est à la croisée des chemins entre un pays démocratique et leader dans la région de la Corne de l'Afrique et un pays déstabilisé qui s'effondre sous le joug des ennemis du nouveau Premier ministre, un réformateur et un leader charismatique. Et Alphonse Mbouaki, RDC, les Américains se sont fortement impliqués dans le processus de paix entre Addis Abeba et Asmara, d'autant qu'ils trouvent leur compte dans la stabilité sous-régionale. Les droits humains seront respectés et on ne verra plus les Érythréens et les Éthiopiens courir dans le désert pour aller mourir dans la Méditerranée en quête d'asile en Europe ou fuir en Israël pour l'exil. Et nous retrouvons nos invités, Ibrahima Khan de l'ONG panafricaine Open Society Foundations. Il nous rejoint de Dakar. Dans l'État américain du Connecticut, la journaliste éthiopienne Tsige Chiferor. De Paris, Roland Marshall, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po Paris. Et à mes côtés, à Washington, Samuel Gebrou, un jeune Éthiopien qui a vécu le conflit entre son pays, l'Éthiopie, et l'Érythrée. Tsige Chiferor, pourquoi est-il donc dans l'intérêt des deux pays de mener jusqu'au bout ce processus de paix?
L'intérêt, principalement, il est tout simplement, j'allais dire économique, puisque vous savez que l'Éthiopie dépend exclusivement du port de Djibouti pour faire toutes ses transactions, ses importations, ses exportations. Donc c'est un intérêt du pays d'avoir d'autres débouchés autres que Djibouti. Donc l'Éthiopie s'intéresse notamment à la Somalie, mais avec l'Érythrée, c'est évidemment un plus. Et au niveau diplomatique, c'est le bon sens qui l'emporte, pour la simple et bonne raison que les populations sont très proches. Je suis moi-même à moitié érythréenne, ma mère est érythréenne, et donc j'ai souvent été privée de pouvoir appeler l'Érythrée lorsque j'étais en Éthiopie à cause des lignes téléphoniques qui ne fonctionnaient pas. On ne pouvait pas voler non plus entre Addis Abeba et Asmara, et je ne suis pas la seule dans ce cas, nous sommes des milliers, peut-être même des millions d'ailleurs. Donc si vous voulez, il était évident qu'à un moment donné il fallait que cette animosité entre les deux parties s'arrête. Et je pense pour ma part que d'avoir un Premier ministre qui est issu de groupes ethniques qui n'ont rien à voir avec ce conflit est en réalité une bénédiction pour le pays. Il est à la fois Amara, il est à la fois Oromo, il est à moitié chrétien, oui. Il est à moitié musulman. Et c'est surtout quelqu'un qui a étudié la résolution des conflits. Et on a vraiment l'impression, en tout cas, que depuis qu'il a son poste de Premier ministre, il essaie effectivement, de façon pragmatique, de façon pratique, de résoudre les conflits, en commençant par celui-ci et en espérant peut-être qu'il pourra résoudre les autres aussi.
Évidemment. Alors, place maintenant à une question que nous propose l'une de nos chaînes partenaires. Nous écoutons.
Bonjour, je suis Julie Sefou de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voici ma question. Quel pourrait être l'impact de cette normalisation sur la situation politique en Érythrée, où le régime utilisait des tensions avec l'Éthiopie pour justifier son autoritarisme?
Question donc de Julie Sefou, rédactrice en chef à B1 TV, notre station partenaire à Kinshasa. Roland Marchal, question bien pertinente de ma consoeur.
Extrêmement pertinente. Je crois que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est un régime qui s'est construit historiquement après 93 dans un isolement, dans une certaine opposition à la situation régionale et d'abord à son grand voisin. Sa capacité de changer, elle va être surtout liée aux initiatives que prendront ou que ne prendront pas les dirigeants actuel du pays. Alors on voit bien ce qu'il faudrait faire. Il faut faire une ouverture, il faut d'une certaine façon faire un peu ce que fait Abiy en Éthiopie, c'est-à-dire remettre en cause l'appareil sécuritaire, déstabiliser ses opposants au sein de l'armée, libérer les prisonniers politiques. Mais si vous voulez, Abiy le fait, comme ça vient d'être très très bien dit, comme quelqu'un qui est finalement a été périphérique dans le conflit entre Érythrée et Éthiopie et donc peut prendre ces décisions là parce qu'il se construit à la fois une base sociale et à la fois ces décisions lui permettent de marginaliser ou d'affaiblir ses opposants. La direction en Érythrée, elle est la même aujourd'hui que celle de 1998 qui a lancé le pays dans la guerre. Est-ce qu'il y aura cette capacité d'autocritique et de renouvellement politique et idéologique? On va le voir. Je crois aussi, ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est de voir la politique économique d'Abiy qui essaye de remettre en cause les conglomérats, par ailleurs liés au TPLF, mais les conglomérats économiques qui, d'une certaine façon, monopolisaient les contrats d'État. Est-ce qu'on va vers la même ouverture économique en Érythrée, ce qui aurait aussi l'avantage de consolider peut-être le retour d'une diaspora économique qui a des moyens, hein, qui pourrait faire beaucoup pour le pays. Bon, c'est des questions qui sont aujourd'hui soulevées. Mais je crois que fondamentalement, je crois qu'il faut pas oublier que un certain nombre de questions, je m'excuse de revenir là-dessus, un certain nombre de questions essentielles sur les rapports entre les deux pays n'ont pas encore été discutées entre leurs dirigeants.
Oui, évidemment, en fait, bien des problèmes demeurent à régler. En fait, justement, j'allais vous demander, comme l'accès de l'Éthiopie au port érythréen ou la démarcation de la frontière, on revient là-dessus. Donc, ces deux voisins de la Corne de l'Afrique ont encore du chemin à faire pour consolider la paix, rapidement.
Oui, mais si vous voulez, la situation des ports est différente. L'Éthiopie aujourd'hui est approvisionnée à la fois par des ports au Soudan, par évidemment Djibouti, le sera demain par Berbera et sans doute par d'autres ports sur la côte de l'océan Indien de la Somalie, plus évidemment Lamu. Donc en termes de mouvement, on peut penser que l'Érythrée revient dans le jeu avec Assab et Massawa. Massawa qui jouait un rôle vital pour les importations au Tigray. Mais la question est que l'Érythrée revient dans le jeu, mais elle ne revient plus avec le rôle fondamental qu'elle avait jusqu'en 1998.
D'accord. Samuel Guebrou, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. De nombreux Éthiopiens vivent à l'étranger, comme ici même aux États-Unis. États-Unis. La question que je voudrais vous poser, comment cette importante diaspora éthiopienne perçoit-elle les changements en profondeur qui s'opèrent dans votre pays? Avez-vous parlé récemment, par exemple, à vos amis érythréens? Donc, eux-mêmes, qu'en pensent-ils?
Oui, en fait, mes amis, je me rappelle clairement, lorsque j'étais en CM1, comme un de mes amis a quitté le pays le jour du lendemain, comme si, carrément, retiré du pays où il a vécu toute sa vie, par les Éthiopiens, Amérique. Et maintenant qu'on a vu ce nouveau changement dans les mœurs politiques, ça devient plus une amitié qui est ouverte. En fait, j'ai des amis que j'ai pas parlé, avec qui j'ai pas discuté depuis longtemps. Je peux les avoir au téléphone, on peut discuter clairement de cette situation qui était toujours un peu tabou.
Mmh. Ibrahima Kan, peut-on aller jusqu'à dire qu'Abiy Ahmed entend concrétiser une ambition de puissance régionale pour son pays?
C'est clair. Et je pense que ce rôle de puissance régionale, l'Éthiopie ne l'a jamais perdu, malgré les difficultés qu'elle connaissait. L'Éthiopie joue encore un rôle important dans la recherche de solutions à la crise du Sud-Soudan. L'Éthiopie s'est investie dans la recherche aussi de solutions à la guerre civile en Somalie. Et si maintenant l'Éthiopie parvient à régler ses relations avec l'Érythrée, elle se mettra en bonne posture pour jouer un rôle dans les relations entre Djibouti et l'Érythrée.
Et d'après vous, l'Éthiopie a-t-elle le soutien des pays occidentaux, dont les États-Unis, dans cette volonté de jouer un rôle prépondérant dans la région? Et comment cela va-t-il changer la donne sur l'échiquier régional?
Je ne pense pas que ça puisse changer beaucoup de choses sur l'échiquier régional, sinon renforcer la place de l'Éthiopie comme acteur majeur.
Mais qu'en est-il au niveau de la question sécuritaire? Vous ne pensez pas que cela va changer quand même un peu de choses?
Oui, mais la question sécuritaire n'est pas simplement une donnée dont les solutions résident entre les mains des Éthiopiens. Vous savez, par exemple, que la crise en Somalie, malgré la présence éthiopienne, n'est pas totalement réglée. Le règlement se fera notamment par une forte coopération avec le Kenya. Le grand problème à l'heure actuelle, à mon avis, dans la sous-région et sur laquelle l'Éthiopie doit vraiment peser, c'est la crise au Sud-Soudan. Elle perdure. Une bonne partie de la population sud-soudanaise et aussi une partie de la population éthiopienne, les Nuer. Et tout ça peut avoir un impact sur le travail qu'il est en train de mener au niveau local.
Voilà. Sigué Cheferor, en deux mots, si c'est possible, êtes-vous optimiste pour votre pays, vous qui êtes éthiopienne, érythréenne?
Et française aussi au passage. Eh bien, écoutez, je veux croire que ces réformes sont sur le long terme. Je veux croire que il réserve encore quelques surprises et que le pays est sur le bon chemin.
D'accord. Samuel Guébrou, les réformes déjà entamées, évidemment, vont-elles vraiment changer la trajectoire économique et politique de l'Éthiopie, qui est d'ailleurs le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique?
Oui, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, mais c'est aussi le pays avec plus de diaspora en dehors du pays. Oui. Là maintenant, avec cette liberté de voyage, on aura plus d'affaires, plus d'économies qui vont revenir. Par exemple, je peux prendre Mohamed Ahmed, un des grands chanteurs éthiopiens, qui va avoir un concert à Asmara. Ça, c'est le début d'une grande vision économique qui va avoir lieu.
Mmh. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, merci à toute l'équipe et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. À très bientôt. Take care. Merci bien.